L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Voilà, nous allons passer une nouvelle étape. Nous avons passé deux émissions et deux dernières. Maud, je crois, sur la prière. Sur la racine de la prière, l'importance de la prière, aussi sa mise en œuvre un peu plus concrète, en tout cas en termes de méthode. Et là, nous allons passer à un autre thème, avec un texte qui est bien connu des familles. Bien connu des familles. Maud.
Oui, il s'agit de l'Évangile selon saint Luc. Je vous le lis. Comme il faisait route, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Celle-ci avait une sœur appelée Marie, qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, elle, était absorbée par les multiples soins du service. Intervenant, elle dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te soucies et tu t'agites pour beaucoup de choses. Pourtant, il en faut peu, une seule même. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. » Elle ne lui sera pas enlevée.
Alors voilà, c'est l'évangile, le fameux évangile de Marthe et Marie. Alors en plus que les familles n'aiment pas du tout. Souvent ce qui vient, voilà, c'est ça, les prêtres, les consacrés, les moines, les moniales, c'est Marie, nous on est les Marthes. On trime à la fois au niveau du boulot, au niveau de la vie de foi, au niveau de l'éducation des enfants, etc. On se tape le sale boulot, entre guillemets, spirituel dans l'incarnation, etc. Tous les autres, ils sont dans les nuages. Et en plus, Jésus leur dit, mais c'est vous qui avez choisi la bonne part, elle sera pas enlevée. Voilà, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà. Donc voilà, c'est la première interprétation, souvent facile. Et puis, souvent dire, bah ouais, mais Jésus, vraiment, il est un peu raide. Et puis même, on est toujours un peu à aller un peu à l'encontre et à essayer de prendre le contre-pied de cet évangile. Alors, comme depuis le début, Maud, qu'on essaie de faire ce parcours de l'évangile pour le couple, nous on a décidé depuis le départ, c'est vrai qu'on a essayé pour nous, tant bien que mal, et puis essayer de le faire aussi durant toutes ces émissions, c'est de partir du principe que la parole de Dieu, la parole de Jésus est une parole de vie, même si elle nous dérange. Et en plus c'est pas une parole théorique. C'est que si Jésus nous l'a dit, c'est que effectivement, elle est une parole de vie pour tous les couples, de tous les temps. Donc aujourd'hui, là, en ce moment, dans nos vies, c'est une parole de vie. Donc, essayons de se laisser interpeller en tant que conjoint, en tant que parents qui sommes accaparés par mille soucis et activités. Jésus nous dit, il faut pouvoir prendre la bonne part, et c'est Marie qui a pris la bonne part, et c'est ça qui est important. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire pour nous, en tant que couple, en tant que parents, en tant que famille?
Voilà, je ne pense pas que Jésus veuille par là mépriser le service. On le sait bien, puisque lui-même va se mettre en tenue de serviteur. Et puis il va laver les pieds de ses disciples. Donc on sait que ce n'est pas la question du service que le Christ est en train de dénoncer là. Il y a une autre lecture qui est plutôt la lecture de ce qui habite le cœur de Marthe. Marthe est énervée par le fait qu'elle ne soit pas aux pieds de Jésus, en train d'écouter tranquillement. Elle voit le côté oisif. Alors que ce que Jésus l'appelle à faire, c'est à travailler sur « tu te soucies ». Tu te soucies de beaucoup de choses. De quoi te soucies-tu?
Tu te soucies, premier point, et tu t'agites.
Voilà.
Et la racine dans le texte de l'évangile est claire, la racine de tu te soucies et tu t'agites, c'est que tu es absorbé, tu es submergé. Et donc à ce moment-là, ça a des conséquences de soucis et t'agites. Alors on va essayer de reprendre justement, qu'est-ce que ça veut dire dans une vie conjugale, familiale, Maud, le tu te soucies?
Oui, alors il y a déjà toutes les préoccupations que Jésus qualifierait de mondaines, c'est-à-dire toutes les préoccupations qui sont celles du monde et qui ne font pas partie des choses indispensables de notre vie et qui concourt à nous agiter, à nous soucier de comment on va s'organiser entre telle chose à faire et telle autre et tel machin et tel bidule. Et toc, il y a un grain de sable au milieu qui coince et pouf, c'est tout le système qui s'effondre. Donc il y a bien là une agitation qui prouve bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste. Et si jamais nous vivons toutes nos activités avec du souci et de l'agitation, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans nos cœurs.
Et puis je crois que il ne faut pas prendre également nos vies de famille ou nos vies dans le monde pour un prétexte pour tout faire avaler. Il faut aussi avoir une propre relecture sur nous-mêmes. Et que nos soucis du monde, notre péché du monde de vouloir avoir du pouvoir, d'être reconnu, d'être aimé par son patron, par ses voisins, par la société, etc., etc., ce sont tout ça des soucis mondains. Et nous avons chacun, les uns et les autres, à des degrés divers, à faire vraiment un travail de relecture par rapport à ça, où effectivement, un certain nombre de nos soucis, et donc finalement de nos activités, vont nous conduire finalement, c'est pas simplement des soucis, entre guillemets, sains. Nous sommes effectivement à des moments déviés. Et nous avons des comportements, des actions, etc., qui finalement, sous prétexte de ceci ou de cela, c'était le prétexte de Marthe qu'elle servait, finalement, ça relève au niveau de la vie du cœur, de sentiments qui ne sont pas forcément très justes, justement, voilà. et qu'il nous faut purifier.
Oui,
et
puis plus on se soucie, plus ça veut dire qu'on s'approprie exclusivement la responsabilité de la réussite ou de l'échec de l'affaire en question. Et donc, on est donc centré sur soi et loin d'une démarche d'abandon et de confiance en le Seigneur. On n'est plus dans la liberté des enfants de Dieu, on est plus dans l'appropriation de la chose en question. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à la lâcher au Seigneur, on n'arrive pas à la donner. On a l'impression qu'on va être évalué sur le résultat de cette affaire-là, alors qu'on est bien plus à remettre les choses dans la vraie perspective. Qu'est-ce qui est premier ? Qu'est-ce qui fait que je mérite de me mettre en souci, entre guillemets ?
Et puis, ce souci, à des moments, finalement, on n'est pas mécontent d'avoir ce souci, d'avoir des soucis. C'est les gens sérieux, quand même, qui ont des soucis. Hein ? Ça vous rappelle pas quelque chose, hein ? Le petit prince, hein ? C'est l'homme d'affaires du petit prince. Je suis un homme sérieux, et donc je n'ai pas à m'occuper de petites bricoles. Donc, quelque part, par rapport à ça, c'est effectivement aussi une forme d'orgueil. Plus je suis accaparé, plus je suis quelqu'un d'important, parce que beaucoup de personnes ont besoin de moi, etc., etc. Donc nous devons bien quand même regarder que ce souci que nous avons, que nous justifions bien souvent, il nous faut le travailler, le purifier, et en tout cas le regarder, le discerner.
Voilà, alors l'autre aspect qu'on a évoqué à travers ce texte, c'est l'agitation. Alors l'agitation, mais c'est effectivement un travers très connu des parents, et surtout des parents de famille. Nous avons le risque de tomber dans un activisme effréné. Bien sûr, on est sollicité de tous bords, amicalement, sportivement, pour les associations, pour toutes sortes d'engagements, partout. On pourrait passer notre vie à dire oui à des tas de projets. Mais avec du recul, est-ce que ça ne vaudrait pas la peine de se poser la question, de dire mais cette agitation, qu'est-ce qu'elle m'empêche de vivre ? Si je suis tout le temps dans l'activité, dans l'agitation, dans le courir après les choses à faire, dans les soucis que je me fais pour ci, pour mi, à ce moment-là, je n'entends plus le petit, le pauvre. Je n'entends plus la parole de mon enfant, qui n'est peut-être pas très explicite. Je n'entends plus la souffrance de mon conjoint, qui n'est peut-être pas très facile à voir. Mais parce que je suis complètement submergée par toutes sortes d'agitations, à ce moment-là, je ne peux plus être attentif à ce qui, dans ma vie, va donner l'importance de ma vie.
Ou à des moments, effectivement, ça va être le fait que je m'agite et que je suis contraint dans tout un rythme de travail ou de ceci ou de cela, parce que je veux me conformer à un modèle social, ou parce que je veux acquérir tel ou tel bien qui ne serait peut-être pas nécessaire forcément, que je vise peut-être de manière un peu plus ambitieuse, ou rechercher peut-être une vie plus simple. Ce n'est en rien des jugements de tel choix de Pierre, Paul ou Jacques, c'est simplement une question que nous avons tous à nous poser. La réponse appartient à chacun de nous. Et la mesure appartient à chacun de nous. Mais aussi, elle doit être prise avec le Seigneur, de pouvoir discerner vraiment les bons fruits des mauvais fruits. Finalement, c'est ça, et la parole de Dieu est très claire, quels sont les fruits de cette agitation, de ce stress de notre vie. Notamment, quels sont les mauvais fruits, stress, activisme, perte d'esprit évangélique, de pouvoir être accaparé par un esprit profane ou mondain.
Oui, on voit bien ça chez Marthe, c'est que finalement son agitation crée en elle un esprit, je dirais, d'agressivité, de jalousie, elle se compare à sa sœur. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans un accueil du fait que Jésus est là et que chacun fait ce qu'il a à faire, mais elle rentre dans une agressivité avec l'autre qui est le résultat de cette agitation intérieure. Plus que l'agitation extérieure, il s'agit de ce que notre cœur vit à travers toutes ces activités. Est-ce que nous arrivons à garder la paix? Est-ce que nous arrivons à garder l'ouverture à l'autre? Est-ce que nous arrivons à être perturbés par quelqu'un qui a besoin de nous parler, par les choses essentielles de notre vie? Si tout ça, c'est blindé, fermé, occupé, surbooké, est-ce qu'on est vraiment dans ce que le Seigneur nous demande de vivre? Est-ce qu'on est vraiment dans cette ouverture du cœur qui permet justement à l'Esprit Saint de passer dans notre quotidien?
On se retrouve dans quelques instants. Nous reprenons notre cheminement avec l'évangile de Marthe et Marie. Et donc, nous avons vu pendant cette première partie combien le « tu t'agites » et « tu te soucies » étaient vraiment des paroles du Christ à Marthe qui interpellaient également notre vie conjugale. Et qu'à un moment, on était submergé et que parfois, on donnait beaucoup de fausses excuses et que les fruits de cette agitation se traduisaient très concrètement par des choses, des ressentiments, des fruits de l'esprit, plutôt du non-esprit, dans nos vies en termes de troubles, de tensions, etc. Et d'où l'importance de pouvoir, et c'est l'invitation que fait Jésus à Marthe, et que donc en cela, que l'invitation qu'il fait à nos couples, l'importance d'une écoute, d'un recul, d'une réflexion, d'une prière commune, de prendre de la distance, d'invoquer l'Esprit Saint pour discerner, pour hiérarchiser nos choix et nos rythmes de vie.
Maud. En premier lieu, c'est vrai qu'il y a un travail à faire sur nous-mêmes. Déjà parce que si notre cœur est dans la paix, à ce moment-là, déjà, il y a de fortes chances qu'on soit moins agité. Plus on arrivera à maintenir la paix en profondeur, et plus ça rejaillira sur notre comportement extérieur. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a, énormément de saints qui ont travaillé sur cet aspect-là. Bon, bien sûr, il y a toute la sagesse de l'Église d'Orient sur la prière du cœur, sur dire le chapelet dans la journée, glisser des moments de prière avec un beau disque de louange dans sa voiture. Enfin, tout ce qui peut aider à retrouver sans arrêt Seigneur,
la source de son cœur.
Voilà, Seigneur, c'est avec toi que je suis, c'est avec toi que je vais faire mes courses, c'est avec toi que je vais travailler, c'est avec toi que je suis avec tel enfant. Je suis dans plein de conduites, je suis à la bourre, mais je respire et je prends le temps d'être avec toi et je me pose et je m'apaise. Et avec ce travail intérieur, bien sûr, la prière va remplir un rôle important, mais il y a aussi tout le rôle du discernement.
Et combien, avant de passer au discernement, c'est vrai que c'est combien de couples et de familles ont dit que leur rythme, leur vie de famille a été beaucoup moins stressée rien que par le fruit de la prière, sans rien avoir mis en œuvre. Sans rien avoir mis en œuvre d'autre chose, ils ont constaté les fruits de la prière dans leur vie conjugale. Tout de suite, hop, les choses se mettent dans le bon ordre, etc.
Voilà, et de la même façon, quand on écoute les saints qui nous disent « Acquiers la paix et le monde viendra à toi », ou alors « Fais de ton cœur une cellule intérieure », ou alors certaines devises d'évêques comme « moine à l'intérieur, apôtre à l'extérieur », tout ça, ça nous rappelle l'importance de ce lieu du cœur où nous allons puiser notre paix. Et que c'est cette paix-là qui, après, va irradier dans notre façon de vivre nos événements.
Alors, Maud, tu soulignais le deuxième point qui est très important pour justement écouter l'interpellation que Jésus fait à Marthe, et donc indirectement à nos couples, c'est la question du discernement. Et ce discernement qui doit être pas simplement quelque chose d'intellectuel, mais surtout ancré dans l'Esprit Saint. Un discernement dans l'Esprit Saint.
Voilà, ce discernement, il va porter ensemble, en couple, ou parfois c'est l'un ou l'autre qui peut le faire, sur qu'est-ce qu'on retient comme priorité pour notre vie. Si la priorité pour notre vie, là, en ce moment, nos enfants ont tel et tel âge, la priorité, c'est qu'on soit attentif à eux. Eh bien, on va éliminer certaines activités de week-end ou autre, parce que c'est notre priorité à ce moment-là. Si jamais la priorité, c'est plutôt que l'un ou l'autre reprenne des études ou je ne sais pas trop quoi, parce que c'est important pour son parcours, on va décider à ce moment-là de mettre en sourdine d'autres choses. Il faut discerner les priorités que l'on se donne en couple, et à ce moment-là, ordonner nos décisions à ces priorités-là. Et élaguer le reste, même si c'est douloureux. Et de ce point de vue-là, ce sera toujours douloureux parce que c'est forcément un renoncement. Et finalement, il nous faudrait 10 vies pour faire tout ce qu'on a envie de faire.
Voilà, et c'est vrai que c'est pas facile. Et il faut à un moment pouvoir dire, il faut pouvoir sélectionner et hiérarchiser. Et donc, c'est un travail de discernement à faire en prière, avec effectivement telle ou telle chose qu'on va apprécier différemment en tant qu'homme, en tant que femme. Et c'est pour ça que ça va aussi nourrir indirectement notre dialogue, d'où l'importance d'un climat d'accueil, de discernement, de prière. Combien de fois, avec Maud, on s'est dit, mais voilà, Maud pensait blanc, moi je pensais noir. Il faut laisser mûrir, il faut discerner, il faut que chacun fouille. Il faut laisser du temps au temps aussi pour laisser mûrir les choses. Puis au fur et à mesure, les choses décantent. Nous sommes toujours partis de cette profonde conviction, c'est que le Seigneur nous a mis ensemble. Si qu'à un moment nous sommes en désaccord, c'est qu'il y a un problème de conversion chez l'un ou chez l'autre. Et donc, effectivement, nous avons à ce moment-là à prier que la solution A et la solution B, ben, finalement, c'est peut-être pas celle-là, mais c'est la solution C, que nous avons à découvrir ensemble. Voilà. Et nous avons, depuis que nous avons pris conscience de cela et essayé de le mettre en pratique, effectivement, on n'est effectivement jamais déçu. Et le Seigneur conduit toujours à nous éclairer, parfois de manière très surprenante. I need you like the
rain. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que au-delà du fait que on va essayer de se mettre d'accord et comprendre quelle est la bonne décision, c'est que ça va nous recentrer sur ce qui est premier dans notre vie de couple.
Absolument.
Et qu'on va faire ce travail, finalement, quel est notre projet de couple? Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en premier? Quels sont les gros cailloux qui doivent prendre leur place?
Je me souviens comme ça, il y a 12 ans, il a fallu que je fasse une réorientation professionnelle importante. Et à un moment, je pouvais soit rester dans mon poste, soit le quitter pour prendre autre chose. Et même spirituellement, etc., les deux solutions, il y avait beaucoup d'arguments dans un sens dans l'autre. Et je me rappelle qu'on a fait tout un 4 mois absolument passionnant. Finalement, on a remis toute notre vie, entre guillemets, à plat entre nous. On l'a prié, on a discerné, etc., etc. Et au fur et à mesure, pop, au moment où il fallait prendre la décision a été prise dans la paix, alors que pendant tout un temps, nous étions justement fortement troublés. Mais on a fait vraiment acte de foi en disant, Seigneur, tu vas nous conduire, tu vas nous éclairer, mais au fur et à mesure, nous allons mettre un pas devant l'autre. Le Seigneur donne sa manne au jour le jour, et effectivement, au bout de la route, il y avait le bon discernement.
Voilà, et puis en plus, on sait qu'un arbre qui veut porter de bons fruits doit être élagué. Je crois aussi qu'il faut qu'humblement on reconnaisse que si on veut porter de bons fruits, il faut élaguer nos activités. On ne peut pas être donné dans trop de choses. À ce moment-là, on se dilue, on s'agite, on s'excite et on n'est plus dans la présence à l'autre. Et on n'est plus même dans la présence à soi-même et à Dieu. Donc, il vaut mieux accepter cet élagage pour que le résultat soit beaucoup plus serein, beaucoup plus plaignant, beaucoup plus satisfaisant. Parce que bon, on l'aura fait sereinement, bon, bien sûr, on renonce à d'autres choses, mais on peut alterner d'une année sur l'autre, peu importe, chaque année on peut rediscerner et prendre le temps de choisir en fonction aussi de son rythme, de sa résistance, de son énergie, de beaucoup de choses.
Et je pense qu'il est très important en tant que parent, c'est vis-à-vis des enfants. Quel est le plus beau cadeau que nous pouvons faire à nos enfants? Quel est le plus beau héritage qu'on peut leur léguer? C'est d'avoir des parents qui sont heureux, qui s'aiment, qui sont pacifiés, qui sont fidèles jusqu'à la fin de leur vie. Ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Ça, toujours mieux que les plus belles vacances, que ceci, que la plus belle maison, que la plus belle, que le plus beau lycée et que le plus beau diplôme. Donc, ce cadeau-là que nous pouvons faire, il faut bien y penser dès le démarrage et construire et discerner pour qu'effectivement, à un moment, la vie et l'extérieur et les contraintes, etc., etc., ne nous submergent pas. Mais que nous puissions être maîtres de nos vies dans le sens où c'est le Seigneur qui reste au cœur de nos vies.
À ce moment-là, effectivement, nous pourrons dire que, avec le Seigneur et en discernant ensemble ce qui est finalement relève de nos priorités et ce qui n'en relève pas, à ce moment-là, nous allons rentrer dans la meilleure part. Et cette meilleure part, elle nous est aussi proposée.
Il faut rappeler que la meilleure part, c'est effectivement, tu rappelles, la parole de Jésus. Marie a choisi la meilleure part et elle ne lui sera pas enlevée. Eh bien, il faut le transposer aux couples et aux familles chrétiennes qui, justement, vont entendre cette parole. Seigneur, je veux te mettre au cœur de ma vie. Je veux vraiment hiérarchiser tous mes différents choix, etc., pour que, justement, l'essentiel soit mis au cœur de notre vie conjugale et de notre vie familiale et de nos enfants. Alors effectivement, nous allons goûter et rentrer, malgré les épreuves inévitables, rentrer dans la construction de ce bonheur, et pour nous en tant que couple, et pour nos enfants, et aussi dans ce don que nous allons pouvoir faire vis-à-vis des autres, parce que finalement, quand on est construit, on a beaucoup plus de facilité à pouvoir se donner. Et ça, c'est un cadeau immense qui nous est fait.
Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on peut à ce moment-là écouter cette autre parole de Jésus. Ce trésor que le Seigneur va nous donner en rentrant dans cette logique-là, il ne sera jamais enlevé. Et non seulement il ne sera pas enlevé, mais le Seigneur donnera encore de surplus à celui qui a déjà beaucoup. C'est-à-dire que cette logique du discernement et cette logique de remettre les priorités dans le bon sens, c'est comme un cercle vertueux. C'est-à-dire que plus on ordonne sa vie, plus on est pacifié, plus on prend des bons choix, si je puis dire, on fait des bons discernements,
et plus ça nous aide. Plus le Seigneur surabonde.
Voilà, et plus le Seigneur surabonde, et plus ça nous aide à rentrer dans cette disponibilité du cœur, cette ouverture.
C'est cette conclusion, souvent un peu mystérieuse et surprenante, de la conclusion de la parabole des talents. À tout homme qui a, on donnera, et il aura du surplus, mais celui qui n'a pas, on enlèvera, même ce qu'il a. Dans le sens que si vraiment nous accueillons la bénédiction du Seigneur et le sens et son enseignement, alors effectivement la grâce va surabonder et décuplante. Et c'est ça qui est vraiment de voir, ça n'enlève absolument pas les épreuves, mais de voir effectivement pour les couples qui ont accueilli, qui ont essayé de mettre en œuvre cet évangile de Marthe et Marie, qui ont entendu cet appel à la vigilance, au discernement, qui le mettent en place dans leur vie, alors effectivement ils témoignent de cette grande bénédiction.
Voilà, je crois qu'on se retrouvera la semaine prochaine et bonne semaine à tous.